deuxième temps de notre série consacrée à la période des Lumières. Les Lumières, nous parlerons ce matin de l'utopie au temps des Lumières. Après vous avoir parlé hier avec Mélanie Traversier du journal de la reine Marie-Caroline de Naples et avant-demain de vous parler d'émancipation des Juifs pendant la Révolution française et d'abolition de l'esclavage avec Pierre Birnbaum et Olivier Grenouillot, nous aurons le plaisir ce matin de recevoir trois des auteurs du dictionnaire critique de l'utopie au temps des Lumières, paru l'an dernier chez Georg Éditeur, une œuvre collective de plus de 1400 pages largement illustrée qui permet par des entrées originales de se replonger dans les différentes utopies qui ont couru tout au long du siècle des Lumières. Avec nous pour en parler depuis Lausanne, nous aurons d'ici peu, depuis les studios de la radio suisse romande, François Rosset. Il est professeur de littérature à l'université de Lausanne, spécialiste entre autres du groupe de Copé, de Madame de Staël ou encore de Yann Potocki. Et Michel Poré, il est professeur à l'université de Genève, spécialiste des peines, du crime, de la justice et de la prison à l'époque moderne. Et ils ont tous les deux, avec Bronislav Bachko qui a disparu l'année dernière, et bien coordonné cet ensemble de dictionnaires critique de l'utopie au temps des Lumières, auquel participe également, et elle est avec nous depuis les studios français de Radio France à Paris, Laurence Fontaine, elle est directrice de recherche au CNRS, auteur de L'économie morale, pauvreté, crédit et confiance dans l'Europe pré-industrielle, prix des rendez-vous de l'histoire de Blois en 2009, et de Le marché, histoire et usage d'une conquête sociale, paru chez Gallimard il y a deux ans, en 2014. Bonjour Laurence Fontaine.
Bonjour.
Nous avons la chance de vous avoir dans notre studio, ce qui permet à cette émission de démarrer, parce que malheureusement, pour l'instant, la liaison avec nos camarades de la radio suisse romande à Lausanne et à Genève est interrompue, et vous avez participé, vous, comme donc les deux autres, deux autres personnes que nous avons interrogées, les deux autres historiens et spécialistes de littérature que nous avons interrogés dans cette émission, vous avez participé donc au dictionnaire critique de l'utopie au temps des Lumières. Je l'ai dit, vous êtes spécialiste de l'histoire de l'économie morale, de la pauvreté, et donc on vous a chargé dans ce dictionnaire critique de l'article pauvreté, justement. Comment aborde-t-on une œuvre collective comme celle-ci, dont on sait effectivement que Bronislav Bachko avait été l'initiateur, après avoir reçu le prix Balzan, c'était en 2011, et qu'il a voulu rassembler autour de lui, pour cette grosse publication, beaucoup de spécialistes du temps des Lumières et du XVIIIe siècle. Comment aborde-t-on ce travail collectif? C'est toujours intéressant, j'imagine, de travailler collectivement sur un concept comme celui d'utopie, surtout que la pauvreté, a priori, n'a pas immédiatement quelque chose à voir avec cette question de l'utopie, Laurence Fontaine.
En fait, c'est absolument passionnant parce que toutes les entrées qu'ils ont choisies se répondent les unes les autres, tirent des fils, et finalement, la pauvreté est au cœur aussi de l'utopie, dans le sens que, certes, les utopistes avaient trois volontés. Enfin, l'utopie, c'est un champ de bataille, je dirais. On voit à la fois les utopies, mais on voit aussi des utopies minées de l'intérieur, des contre-utopies, des uchronies. C'est à la fois un lieu où les gens peuvent s'exprimer contre le pouvoir en place et contre la société dans laquelle ils sont, et un lieu où ils peuvent s'exprimer relativement facilement, parce que la censure, quelque part, les laisse un peu de côté. Alors certes, c'est plus compliqué que ça, parce qu'à cette époque-là, il y a beaucoup d'utopies qui ne sont pas publiées, en particulier dans la deuxième partie du XVIIIe, et certaines sont censurées, certaines ne sont publiées que 20, 30 ans plus tard, donc
le champ est mouvant.
Le champ est mouvant.
Alors, nous sommes avec vous, Michel Poré et François Rosset, depuis les studios de la radio suisse romande. Une première question, je disais en ouverture de cette émission que la figure centrale de ce travail nous manque. Évidemment, il s'agit de Bronislav Baschko. Michel Poré, François Rosset, pouvez-vous nous dresser le portrait de ce très grand historien de ce siècle des Lumières, disparu l'année dernière et qui a coordonné avec vous cet ensemble de travaux, donc du dictionnaire critique de l'utopie au temps des Lumières.
Oui, bonjour. Bon. C'est Michel Poré, merci de l'invitation. Oui, on peut dire deux mots effectivement de Bronislav Baschko, qui était le cœur ou l'âme de ce dictionnaire. Donc, une œuvre sur Jean-Jacques Rousseau, des travaux sur la Révolution française, et puis son grand livre Les Lumières de l'Utopie, qui a montré dans les années 80 la place que prenait la culture de l'utopie dans la culture littéraire, politique et philosophique des Lumières, non pas forcément comme lieu de contestation de l'ordre établi, mais comme lieu de réflexion sur le monde social, sur l'imaginaire, sur le contrat social.
C'est-à-dire prendre... Donc, ce dictionnaire, effectivement... Il s'agissait de prendre au sérieux justement ces travaux et ces textes sur l'utopie du XVIIIe siècle.
Il s'agissait effectivement de donner un dictionnaire qui ne soit pas un dictionnaire exhaustif sur l'utopie, parce que c'est impossible, mais il s'agissait d'une certaine manière de faire travailler une quarantaine de spécialistes pour montrer comment fonctionnait dans la culture des Lumières l'imaginaire utopique.
Et alors, il se trouve que Bronislav Baschko avait reçu le prix Balzan en 2011 d'une fondation internationale qui porte ce nom, Fondation internationale Balzan, pour sa contribution à la réflexion philosophique consacrée à la pensée de Rousseau et à l'étude des conséquences politiques et sociales du mouvement des Lumières sur les événements de la Révolution française. Et que c'est grâce à ce prix, d'une certaine façon, qu'il a entamé ce travail collectif avec vous tous et en particulier avec vous deux, Michel Poré et François Rosset, puisque vous avez coordonné cet ouvrage ensemble.
Oui, le prix Balzan, qui offre au lauréat une somme très très élevée, stipule que la moitié de cette somme doit être dévolue à un projet de recherche impliquant des jeunes chercheurs. Donc c'est à partir de cette donnée que, avec Bronislav, nous avons prévu de faire ce dictionnaire qui réunit parmi la bonne quarantaine d'auteurs, des amis de Bronislav, des collègues qu'il estimait beaucoup, mais également des collègues beaucoup plus jeunes.
Et donc, ce travail, il faut l'entamer en faisant le tri, pourrait-on dire, entre toutes les utopies dont on a parfois entendu déjà parler, puis celles qui sont moins connues et qui se sont, cristallisées autour de ce XVIIIe siècle. Comment sélectionner la quarantaine d'entrées de ce dictionnaire? Comment choisir? Parce qu'il faut quand même préciser pour nos auditeurs qu'il y a une entrée temps qui est tenue par l'excellent Christophe Pomian, une autre sur la ville, une autre sur le voyage que vous avez fait vous-même, François Rosset, ou encore sur le paradis, vous aussi, c'est François Rosset, ou également deux entrées qui sont relativement concomitantes, mais un peu différentes, sur les missions jésuites et sur le Paraguay. Comment choisir justement ces entrées et choisir ces possibilités d'entrer dans cette idée de l'utopie à l'époque des Lumières, en oubliant le moins possible de ce qui s'est écrit à ce moment-là et dit à ce moment-là, Michel Poré.
Comment entrer dans la lecture du dictionnaire? Je crois que d'abord, ce dictionnaire, c'est une œuvre collective. Ça, c'est la première chose qui, pour nous, était extrêmement importante. Et puis, d'autre part, il ne s'agissait pas, on l'a déjà dit, d'essayer de faire une encyclopédie exhaustive, mais il s'agissait de construire des réseaux de sens. Vous avez rappelé quelques-uns des chapitres donc, qui permettent d'entrer dans le dictionnaire. Ces chapitres sont conçus comme des essais originaux, c'est-à-dire qu'on a donné carte blanche à un spécialiste des Lumières pour réfléchir sur la thématique qu'on lui avait imposée d'une certaine manière, afin de comprendre que, d'une certaine manière, les Lumières, dans la culture de l'utopique, dans l'imaginaire de l'utopie, sont intéressées à remettre, d'une certaine manière, ces grandes entrées dans une problématique littéraire, philosophique et politique. Donc le choix était un choix, d'une certaine manière, de construire un réseau intellectuel autour de certains objets qui nous paraissaient être singulièrement représentatifs, en fait, d'une réflexion sur les Lumières.
Alors, nous avons commencé.
Allez-y, François Rosset.
Oui, nous avons commencé par établir une liste des sujets qui nous semblaient s'imposer.
Il devait y en avoir 250, j'imagine, au départ.
Eh bien, non, pas vraiment, parce que nous avons renoncé tout de suite à des sujets d'ordre conceptuel. Et donc, nous avons établi cette liste et finalement, il s'est avéré que nous avions 54 entrées, ce qui se trouvait très bien, puisque c'est exactement le nombre de villes qu'il y a sur l'île d'Utopie de Thomas More. Et donc, chacun des chapitres, comme Michel l'a dit, a été attribué à quelqu'un. Et si on revient à votre question au sujet du choix parmi les quelques entre 100 et 150 textes utopiques du XVIIIe siècle, sur quel texte travailler, mais là, les auteurs étaient absolument libres d'opérer comme ils le souhaitaient. Et c'est à la fin du travail que nous avons établi un répertoire systématique de toutes les œuvres citées par nos auteurs. Et c'est là aussi qu'il s'est avéré qu'un certain nombre de ces textes reviennent dans beaucoup de travaux, beaucoup des chapitres, et d'autres beaucoup moins. Alors il y a des auteurs relativement peu connus qui se sont trouvés d'une certaine manière revenir à la surface, comme le cas typique est celui de Tiphaine Delaroche, qui a été cité par un nombre assez considérable d'auteurs. Et puis d'autres, évidemment, beaucoup plus attendus, comme Mercier, comme Rousseau, qu'on a retrouvé beaucoup, beaucoup.
Alors prenons un exemple avec vous, Michel Porret. Une notice qui, a priori, peut surprendre dans ce dictionnaire critique de l'utopie au temps de lumière, la notice « pirate ». Pourquoi avoir imaginé que la piraterie était un lieu possible de l'utopie au XVIIIe siècle? Est-ce que c'est, après avoir travaillé, comme vous l'avez fait depuis longtemps, sur les notions de punition, de crime, etc., que vous est venue cette idée? Et pourquoi, justement, cette entrée pirate permet de réfléchir à un ailleurs du XVIIIe siècle, à un ailleurs de l'Europe du XVIIIe siècle?
Effectivement, le texte pirate est un texte qui m'intéressait très particulièrement pour entrer dans le registre de l'utopie, puisqu'il y a à la matrice de la réflexion sur la piraterie, il y a un texte attribué à Daniel Defoe, Libertalia, qui reprend d'une certaine manière tout l'imaginaire de la piraterie tel qu'il s'est construit à partir de moments très courts, disons sur l'océan, au début du XVIIIe siècle, et qui a essayé de relire le geste de la piraterie, non pas simplement comme un geste qui lit et qui comprend la piraterie comme une sorte de criminalité organisée sur l'océan, une criminalité flottante, mais au contraire qui a essayé, dans le texte de Defoe, qui a eu un retentissement énorme dans la littérature sur la piraterie, puisqu'il a configuré, je dirais, tout l'imaginaire pirate jusqu'à Stevenson au XIXe siècle, eh bien, dans ce texte attribué à Defoe, il y a des tas de problématiques pour cette attribution, eh bien, la piraterie est pensée comme une volonté de construire une fraternité universelle autour de quelques règles qui rappellent effectivement la cité d'utopie. Le partage, la loi, la fraternité, la redistribution égalitaire du butin, la construction possible d'une île, hein, Libertalia, dans lequel la société pirate construit une société idéale qui est basée sur une forme de répartition et d'égalité, une sorte de contrat social de l'égalité et de la liberté à l'intérieur même du geste de la piraterie.
On sait par exemple combien des historiens contemporains comme Marcus Rediker, qui va bientôt d'ailleurs venir à Paris, je crois, ou qui est peut-être déjà arrivé à Paris, a réfléchi à cette question du prolétariat flottant, pourrait-on dire, de cette piraterie du XVIIIe siècle, et donc imagine effectivement qu'il y a là quelque chose, une capacité à lire la société du XVIIIe siècle, société de classe, évidemment, différemment, en regardant comment des républiques flibustières, des républiques de Forban ont pu s'installer, en particulier dans des îles qui sont devenues des îles imaginaires, comme l'île de la Tortue. C'est ce dont vous traitez, Michel Porret, dans cet article du dictionnaire critique de l'utopie au temps des Lumières.
Oui, parce qu'effectivement, dans l'imaginaire de la piraterie, il y a la mise en place d'une contre-société qui évidemment est une société anti-absolutiste, une société de la tolérance, une société du partage, une société de l'héroïsme, une société qui n'a plus rien à voir avec, je dirais, l'aristocratie ou les valeurs aristocratiques, et qui construit une sorte de contrat social basé, comme on l'a dit il y a quelques instants, sur la fraternité, le partage, l'héroïsme, le courage. Donc je crois que c'était une bonne façon à la fois de reprendre ce qu'a très bien montré Redeker dans ses travaux sur la figure sociale du pirate, mais cette figure sociale du pirate, comme dans beaucoup de textes utopiques, est investie. On peut dire que les textes utopiques sont des espèces de romans d'État, on dit, au XVIIIe siècle, ce sont des romans d'État. Et bien, dans les textes qui parlent des pirates et qui transforment la geste de la piraterie en espèce d'entrée utopique, il y a un roman d'État, mais qui est un État, je dirais, presque, libertaire, anarchique, à l'extérieur même de la société du XVIIIe siècle.
Oui, parce que... Concluez, Michel, allez-y.
Non, c'est bon, il semblait que c'était une entrée, je dirais, moins connue, mais qui montre effectivement autour de ce qui est à l'intérieur du texte de Defoe et ce qui va produire, ce que certains textes qui vont être produits autour. C'est une façon de réfléchir à un XVIIIe siècle qui est moins celui... moins connu, en fait.
François Rosset, vous avez pris en charge plusieurs articles dans ce dictionnaire critique de l'utopie au temps des Lumières, et l'un d'entre eux, c'est le voyage, et en ouverture, le texte que vous avez écrit tous les trois, Bronislav Bashko, Michel Poré et vous-même, pour introduire à ce dictionnaire critique, nous dit combien, et on parlait à l'instant de l'île, le déplacement vers l'île, et l'idée même d'une île, est une idée forte de ces questions utopiques depuis le début, on le sait depuis Thomas More, mais effectivement que cette question du voyage vers l'île nous dit quelque chose de ce qu'est l'utopie chez les contemporains du XVIIIe siècle en Europe.
Alors on peut distinguer la question du voyage vers l'île et puis la question de l'île elle-même. Alors la question du voyage vers l'île, elle est très importante d'un point de vue, littéraire, ou d'un point de vue de la composition des textes utopiques. Dans la mesure où ce monde que l'on postule, que cette conjecture d'un monde autre que l'on va postuler, par exemple sur une île, ou souvent sur une île, c'est un monde qui est ailleurs, mais un monde que l'on considère vu d'ici. Et donc il faut partir d'ici pour aller ailleurs. Et il faut que le texte évoque, sans forcément le raconter en détail, même c'est assez rare que ce soit raconté en détail, évoque le déplacement. Il faut qu'il y ait déplacement. On est parti d'ici, on est allé ailleurs, et naturellement, puisqu'il faut rendre compte de ce qu'on a vu, il faut revenir. Donc la question du voyage est une donnée structurelle absolument indispensable à tout récit utopique. Et par ailleurs, évidemment, que c'est une donnée qui permet de faire le joint ou de comprendre le joint qu'il y a entre les voyages d'imaginaire qui aboutissent à des pays imaginaires et donc qui peuvent nous amener dans une utopie, et puis d'autre part, le foisonnement extraordinaire à cette époque de la littérature des voyages authentiques, dont on sait, à propos de cette littérature, que l'une des problématiques centrales, c'est de savoir si les voyageurs mentent ou non.
Ouais, c'est ce que dit Jaucourt dans l'encyclopédie, quand il dit que les voyageurs ajoutent presque toujours aux choses qu'ils ont vues, celles qu'ils pourraient voir, ou qu'ils pouvaient voir, d'une certaine façon.
Mais Jaucourt ne fait que répéter ce que disent énormément même de préfaciers de récits de voyage, ou de voyageurs eux-mêmes, qui se défendent de l'accusation qu'on ne va pas manquer de leur faire de raconter des choses qu'ils n'ont jamais vues.
Ce qui est intéressant, François Rosset, dans cette affaire du voyage, c'est que effectivement, vous mentionnez le fait que entre Thomas More et disons le début des voyages transcontinentaux des Européens au XVIe siècle et la fin du XVIIIe siècle, il y a une différence fondamentale, c'est que à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on peut dire d'une certaine façon que la Terre est finie et qu'il n'y a pas de Terre à découvrir ou d'île nouvelle à découvrir, et donc à partir de ce moment-là, il faut changer peut-être la façon de percevoir et d'user de cette figure de l'île comme étant l'endroit d'une utopie possible, François Rosset.
Oui, alors si on reste toujours dans cette problématique du voyage ou du trajet qu'il faut évoquer,
Alors, cette question du voyage va nécessairement mettre au cœur du discours la question de la vraisemblance. Mmh. Et à partir du moment où le monde a été identifié de manière presque exhaustive, ce qui correspond d'ailleurs à la fin du XVIIIe siècle, 1789, c'est une date qui est importante à toutes sortes d'égards, mais notamment aussi du point de vue de la géographie. Et donc, à partir de ce moment-là, la question de la vraisemblance va changer, c'est-à-dire que on ne peut plus fonder un récit de voyage imaginaire sur la possibilité de terres qu'on n'aurait pas encore découvertes, et donc on ne peut pas postuler qu'il est vraisemblable dans la vie réelle des hommes de découvrir une terre d'utopie sur la Terre même, sur notre planète. Et donc il faut changer les paramètres du discours sur la vraisemblance. Et ça, c'est évidemment très important. Maintenant, si on revient à votre question sur l'île, n'est-ce pas ? On disait qu'il y a la question du voyage, hein, il faut aller jusqu'à l'île, et puis il y a la question de l'île elle-même. Alors, on peut dire beaucoup de choses. Par exemple, on peut renvoyer au magnifique article Géographie de Jean-Michel Racot, oui, dans le dictionnaire, absolument, mais aussi à beaucoup de ses travaux. Mais il y a un aspect de l'île qu'on peut évoquer de manière rapide, parce que c'est un aspect qui nous, disons, qui est lié à la question de l'abstraction, la conceptualisation. C'est que l'île, c'est le territoire le plus, enfin, qui s'impose de la manière la plus simple lorsqu'il s'agit de circonscrire un objet.
Oui.
Et donc, pour pouvoir faire le tour d'un objet, pour pouvoir le distinguer, et donc pour pouvoir en donner une définition, eh bien, il est nécessaire de lui dessiner un périmètre. Alors, dans le cas de l'île, c'est extrêmement simple, puisque la nature s'est chargée de cette définition. mais on a beaucoup d'utopies qui nous présentent des îles métaphoriques, c'est-à-dire ce sont des vallées dans les Alpes, mm-hmm, ce sont des lieux qui sont isolés,
circonscrits.
Et circonscrit d'une autre manière que par l'océan. Mais cette fermeture, cette clôture est absolument indispensable pour que l'objet soit distingué.
France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin.
Une musique tirée de l'œuvre de Domenico Zippoli, qui était un jésuite en particulier, qui a œuvré dans les réductions jésuites du Paraguay. Il s'agissait des vêpres de San Ignacio. Laurence Fontaine, vous avez participé à ce dictionnaire critique de l'utopie au temps des Lumières, je l'ai dit en ouverture de cette émission, avec un article consacré à la pauvreté. Alors, on est un peu loin tout de même de ce qu'on évoquait à l'instant même avec François Rosset, puisque cette pauvreté, elle est sous les yeux de tous dans la société du XVIIIe siècle. Et une des questions, c'est que cette utopie, justement, de l'extinction de la pauvreté, si elle est partagée par beaucoup des auteurs du XVIIIe siècle, se pense peut-être plutôt dans une sorte de futur que dans une sorte d'ailleurs. Vous évoquez dans votre article combien, à part évidemment peut-être dans l'œuvre de Gulliver, donc dans la façon dont il dénonce la guerre, l'argent et les hommes de loi comme créateurs de pauvreté, on est plus souvent dans une vision, comme chez Louis-Sébastien Mercier, d'une pauvreté qui s'éteindrait dans l'année 2440, donc dans son œuvre de ces années-là, avec un roi, par exemple, qui décide de jeûner pendant quelques jours pour voir ce que c'est que le besoin et la douleur qui en résulte, Laurence Fontaine.
Oui, vous avez raison, mais en même temps, en travaillant ces utopies de mort à Condorcet, mmh, précisément, on se rend compte que Mandeville est un des premiers.
La fable des abeilles.
La fable des abeilles.
1704 ou 1705.
Voilà. En fait, 1704-5, où elle n'a eu absolument aucun succès. Et puis, il lui a rajouté, il l'a adossé sur un épais discours contre la charité. Elle est parue en 15. Et là, elle a eu un succès énorme. Et par exemple, Montesquieu l'a lu et dit qu'il y adhère. Et donc, déjà, Mandeville, il a un projet qui est un projet pour essayer aussi d'éradiquer
la pauvreté.
La pauvreté.
Alors, ces discours et ces écrits sur la pauvreté s'appuient sur des visions différentes, dites-vous, de ce qu'il faut faire pour pouvoir éradiquer cette pauvreté. Il y a deux grandes visions, deux grandes matrices, expliquez-vous. D'un côté, l'idée qu'il faut imposer de la part de l'État, peut-être, une société sans luxe. On sait combien la querelle du luxe a été importante tout au long du XVIIIe siècle. Privilégier, d'ailleurs, cela peut nous rappeler quelques discours de campagne électorale. Privilégier le commerce intérieur qui nourrit le peuple et contrôler le commerce extérieur qui apporte le luxe et donc qui est néfaste. Et de l'autre côté, la deuxième matrice, expliquez-vous, c'est d'aider les individus à réduire eux-mêmes leurs propres inégalités, les inégalités qu'ils subissent. Et ça, c'est plutôt du côté de Condorcet, d'un côté Rousseau, par exemple, ou encore Louis-Sébastien Mercier qui lui succède. Et de l'autre côté Condorcet, qui sont selon vous deux matrices très différentes d'utopie, d'éradication de la pauvreté dans la société du XVIIIe siècle, Laurence Fontaine.
Oui, absolument. Et en fait, on lit ces deux matrices dès la manière dont les pauvres sont définis. Donc, j'ai cherché comment il les définissait. Et si on lit Rousseau, Rousseau, il les prend au fur et à mesure qu'il les rencontre. On va rencontrer des vieillards, on va rencontrer des gens sans travail, on va rencontrer des mendiants, etc. Et puis Condorcet et même Mercier, il dit les pauvres, c'est 80% de la ville. Il parle de Paris. Et Condorcet dit le pauvre, c'est celui qui n'a que son travail pour vivre et qui est menacé de tomber dans la pauvreté au premier accident. Et là, on va avoir d'un côté des utopistes qui pensent la pauvreté comme un état, et d'un autre côté des utopistes qui pensent la pauvreté comme un risque. Et c'est pour ça que la manière dont ils pensent résoudre cette question est complètement différente. Les utopies de Rousseau, Clarins, c'est une utopie où on est dans un monde fermé, où on essaye qu'il n'y ait pas... Il faut réduire les inégalités, il faut réduire le luxe, donc pas d'argent, le moins possible de...
Une société autarcique.
Une société autarcique, c'est le grand modèle quand même de Thomas More qui est repris. Et elle est appuyée par de la charité, de...
Le refus de l'argent.
Le refus de l'argent, bien évidemment. Et puis, la bienfaisance. C'est-à-dire que on aide les pauvres, il suffit pas de leur donner de l'argent, il y a une...
Le bannissement de la loisiveté aussi.
Le bannissement de la loisiveté, parce que tous sont hostiles, bien sûr, à la société de leur temps, c'est-à-dire à la fois à l'arrogance des aristocrates et en même temps au fait que à loisiveté des aristocrates. Donc, il faut mettre tout le monde au travail. Mais néanmoins, le regard sur les pauvres est un regard qui est empreint d'un peu de mépris quand même. Ce sont des ivrognes, ils passent leur temps à aller au café, il va falloir les surveiller, il faut faire attention, c'est des tricheurs, il faut donner qu'à ceux qui sont des bons pauvres, etc. Alors que dans la seconde matrice, et en particulier avec Condorcet, à aucun moment, et Mandeville aussi, à aucun moment, il ne s'occupe de penser que les pauvres sont des gens qu'il faut réformer.
Même s'il pense, Condorcet, que la misère et la trop grande richesse sont les deux raisons justement qui sont concomitantes, qui s'adossent l'une l'autre, pourrait-on dire, pour que la pauvreté croisse dans la société.
Absolument. Mais là, ils le pensent tous. Tous. Pour tous, la raison de la pauvreté, c'est l'inégalité de richesse qui est poussée à son paroxysme. Ça, c'est le topos partagé.
Et donc, comment Condorcet imagine-t-il qu'il faille faire pour sortir justement les pauvres de leur pauvreté, s'il ne s'agit pas, comme le modèle rousseauiste l'imagine de son côté, de les contraindre à moins d'ouverture, de les mettre dans une société plus autarcique et plus fermée, et donc plus contrôlée? Comment Condorcet imagine-t-il cela?
Condorcet se rend compte que, comme je l'ai dit, la pauvreté est un risque. Et donc, les gens risquent, une femme mariée, par exemple, son mari tombe malade ou meurt, elle tombe dans la pauvreté immédiatement. Tous ces travailleurs, quand ils deviennent vieux, c'est terminé. Ils deviennent des pauvres parce qu'ils n'ont pas réussi à accumuler. Les enfants n'arrivent pas non plus à démarrer dans la vie. Et comme Condorcet est un mathématicien, il dit qu'il va utiliser les mathématiques pour construire des assurances qui vont aider les pauvres justement à traverser ces épisodes de vie qu'ils ne vont jamais manquer de rencontrer. Et il propose des assurances, non seulement, comme je l'ai dit, pour la vieillesse, pour la maladie, dans une société patriarcale, pour les femmes quand elles perdent leur mari, pour les jeunes, pour qu'ils puissent démarrer dans la vie, mais aussi, il se dit, il ne sait pas encore comment il va faire, mais il est sûr qu'avec ses mathématiques, il y arrivera, pour que ces pauvres puissent avoir accès à du capital. Il dénonce le fait que le capital soit uniquement dans les mains des riches, que seuls les riches aient accès au crédit, et il se dit, je vais construire quelque chose qui va aussi donner aux pauvres un accès au capital.
Ce qui est assez extraordinaire, c'est quand on lit votre article et quand on lit vos travaux, en l'occurrence Laurence Fontaine, on voit bien combien cette réflexion sur le luxe, sur la pauvreté, sur l'argent, etc., a été immédiatement mise en œuvre, pourrait-on dire, de façon très différente, par la société de la Révolution française en particulier, et puis par les sociétés du 19e siècle, avec des approches très différentes, vous nous l'avez dit, entre Rousseau et Condorcet, il y a des vraies approches très différentes de la question de la pauvreté, et donc, au bout du compte, des solutions mises en œuvre très différentes pour résoudre cette question de la pauvreté. Mais on est tout proche d'une utopie presque réalisée, au bout du compte, puisque ces écrits sont des écrits qui sont directement antérieure à la Révolution française, par exemple, Laurence Fontaine.
Oui, oui, c'est-à-dire que vers la seconde moitié du XVIIIe siècle, il y a quand même toute une volonté de réforme sociale et les gens se mettent à penser. Il y a toute une agitation et qui va se prolonger au XIXe siècle. Mais finalement, ce qui me frappe, c'est la modernité de Condorcet qui a les assurances qui sont encore une des grandes questions aujourd'hui et dans toute une réflexion sur la sortie de la pauvreté des pays en développement passe aussi par vouloir leur donner des assurances à chacun et donc réduire ce risque. Et puis il y a aussi C qui est contrairement
Jean-Baptiste
aux autres.
Jean-Baptiste C.
Oui, Jean-Baptiste C dans Olby.
Économiste.
Dans Olby qui dit que dans sa société d'Olby, il faut pas bannir l'argent, mais il faut donner à tous les dirigeants un bon traité d'économie politique pour les aider à faire vivre une société. Et il ne cesse de dire, tant qu'il n'y aura pas tant que les gens seront vraiment très pauvres, ils ne peuvent rien faire. L'excès de misère empêche toute manière de vivre.
Michel Poré, on voit bien que la distance est courte entre expérimentation sociale, pourrait-on dire, ou expérimentation politique et théorie politique de l'utopie dans ces années de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. D'ailleurs, certaines utopies, on a passé à l'instant même une musique des réductions jésuites du Paraguay, sont à la fois des utopies en acte, pourrait-on dire, avec ces jésuites qui libèrent, pourrait-on dire, les Indiens du cône sud de l'Amérique latine de la tutelle de l'encomienda, mais pour les faire retomber sous la tutelle de la religion chrétienne, donc, et les mettre au travail en préservant une part de leur tradition à l'intérieur de ces réductions jésuites. Il y a donc là matière à réflexion entre utopie mise en acte immédiatement dans ce deuxième moitié du XVIIIe siècle et puis théorie de l'utopie, Michel Poré.
Je crois que ce qu'on vient de dire sur l'économie illustre en fait le statut ambigu de l'utopie dans la culture des Lumières. Et je crois que c'est ce statut ambigu qu'on a essayé de mettre en évidence avec Bronislav et François. Effectivement, il y a peut-être deux paradigmes. Il y a un paradigme utopique qui continue dans une immense intertextualité depuis Thomas More jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et qui nous propose de réfléchir ou qui nous propose de mettre en mots littéraires avec le voyage, le monde idéal. Et puis le monde idéal qui n'existe pas, hein, par définition. Le monde du bonheur qui ne peut pas exister, c'est la définition de l'utopie. Et puis il y a un retentissement, je dirais, de cet imaginaire de l'utopie. Des spécialistes ont essayé de voir qu'il y avait trois ou quatre grands paradigmes dans l'utopie. Un des grands paradigmes, c'est que l'imaginaire de l'utopie est toujours adossé à la justice, à une forme de justice. Mmh. Une justice qu'on essaye de construire ici et maintenant. Et donc, cette deuxième entrée, c'est la manière dont des textes utopiques, à partir des années 1750, avec une réflexion sur le renouvellement du droit naturel, la modération de la souveraineté, l'économie plus productiviste ou plus utilitaire, eh bien, cet imaginaire utopique va contaminer des textes qui ne sont pas des textes utopiques par eux-mêmes, mais qui importent à l'intérieur de leur réflexion, je dirais, la démarche utopique. Je pense notamment à ces textes assez étonnants qui sont publiés dans l'Encyclopédie méthodique Économie politique dans les années 1780, publié par de Meunier, mm-hmm. dans lequel il y a toute une série de textes sur l'économie politique en formation à la fin du XVIIIe siècle, qui se détachent de la morale, qui se détachent de la religion. Et de Meunier nous dit, mais en fait, j'ai besoin d'utiliser des textes utopiques pour continuer de construire, je dirais, mon économie politique qui doit être moderne et qui va vers les paradigmes qu'a rappelé tout à l'heure Laurence Fontaine, c'est-à-dire une meilleure partage des choses.
Mais à quoi sert justement cette sortie vers l'imaginaire, pourrait-on dire? Pourquoi passer par l'imaginaire pour pouvoir justement être plus efficace dans la société de son temps, Michel Poré, selon vous?
Il me semble que c'est une très très longue durée, mais ça c'est une autre affaire, que ce qui est le littéraire, l'imaginaire littéraire offre, je dirais, une possibilité de réflexion extrêmement forte sur le social et le politique. Et je crois que c'est une des façons dont on peut, je ne sais pas ce qu'en pense François, dont on peut comprendre pourquoi le roman d'État, hein, c'est une définition, une des meilleures définitions que je trouve qu'on ait de l'utopie, roman d'État. Donc à la fois il y a l'entrée romanesque, l'entrée fictionnelle, l'entrée littéraire, et puis de l'autre côté il y a le politique, le social, la justice, l'économie. Et je crois que l'utopie, c'est la culture de l'utopie. Il n'y a pas véritablement des utopistes. Il y a des écrivains qui s'occupent d'utopie. Bachko nous mettait en garde contre la notion d'utopisme. Il n'y a pas un parti utopique au XVIIIe siècle, comme il va y avoir des marxistes ou des marxiens au XIXe siècle. Il y a des intellectuels qui sont très souvent d'ailleurs des intellectuels qui viennent des traditions classiques de la République des Lettres. Hein. Ce sont des prêtres, des curés, des littéraires, donc c'est pas des révolutionnaires en action, et qui utilisent ce langage de l'utopie, soit pour faire de la fiction, soit aussi pour réfléchir, comme l'a rappelé tout à l'heure Laurence Fontaine, aux grandes questions sociales et politiques, ou de la justice, après 1750, 1760. Donc je crois que c'est là l'ambiguïté, et il est très difficile d'enfermer l'imaginaire utopique dans un genre plutôt que dans un autre. C'est quelque chose qui fonctionne en interconnexion épistémologique.
Sur ce point, François Rosset, par exemple, vous citez dans votre article Voyage, ce texte de Garnier, donc, qui est l'auteur, effectivement le compilateur, pourrait-on dire, d'un immense travail de tous ceux qui ont écrit des voyages utopiques au XVIIIe siècle, d'ailleurs pas simplement des voyages utopiques, mais des voyages réels aussi. Il dit, il tente de distinguer, dites-vous, le voyageur, le vrai, celui qui a parcouru le monde physique, et le philosophe. Et il dit, l'histoire nous peint les hommes tels qu'ils ont été ou tels qu'ils sont, les romans nous les peignent tels qu'ils devraient être, le voyageur décrit les terres qu'il a parcourues, fait le récit de ses découvertes et raconte ce qui lui est arrivé chez les peuples jusqu'alors inconnus et dont il nous transmet les mœurs et les usages. Mais le philosophe a une autre manière de voyager, sans autre guide que son imagination, il se transporte dans des mondes nouveaux où il recueille des observations qui ne sont ni moins intéressantes ni moins précieuses, suivant Suivons-le dans ses courses et soyons assurés de rapporter autant de fruits de nos voyages que si nous avions fait le tour du monde. Donc, un mélange entre celui qui voyage véritablement et celui qui voyage, pourrait-on dire, comme l'écrivait au XIXe siècle Xavier de Maistre, autour de sa chambre, le philosophe.
Oui, alors on est effectivement ici autour de cette question de savoir pourquoi on aurait besoin de la fable pour transmettre des idées. Et au fond, pourquoi on prend le détour, ou peut-être plutôt le raccourci de la fiction pour transmettre des idées sur le monde des hommes que l'on souhaite meilleur.
Et la censure n'est pas la seule raison. En l'occurrence.
Et non, évidemment que la censure n'est pas la seule raison. Il y a, et en fait, toute l'histoire de la littérature depuis les origines nous le montre bien. Et il y a cette fameuse fable de La Fontaine, le pouvoir des fables, n'est-ce pas, qui raconte cette nécessité qu'il y a de passer par le récit, par le conte, pour que les idées prennent une consistance qui soit perceptible par ceux à qui on s'adresse. Mm-hmm. Donc en fait, c'est une question de communication, c'est une question d'efficacité dans la formulation du discours, et il n'y a rien de plus efficace que le conte ou le récit pour pouvoir toucher le public que l'on vise. Et cela est très sensible dans toute la tradition de l'utopie, dans laquelle il y a bien sûr tout l'aspect de penser sur l'homme, sur le social, sur l'organisation politique, sur l'État, mais en même temps, de manière peut-être un peu plus indirecte, mais quand même extrêmement sensible pour les littéraires, en même temps développe une réflexion absolument extraordinaire sur les modalités de la fiction.
C'est ce que dit Louis-Sébastien Mercier quand il dit que fictionner, c'est imaginer des caractères moraux ou politiques pour faire passer des vérités essentielles à l'ordre social, en l'occurrence.
C'est parfaitement ça, oui.
Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que cette définition de Mercier, donc qui apparaît dans son fameux dictionnaire sur la néologie, il cherche un verbe. Il n'y arrive pas, il cherche un verbe qui décrit le fait d'utopiser. Et en fait, comme ce verbe n'existe pas, et c'est toujours un néologisme d'ailleurs dans la langue française, il prend ce verbe de fictionner. Et fictionner comme une attitude littéraire, mais qui a immédiatement un impact philosophique, puisque fictionner, effectivement, vous venez de rappeler la citation qui est magnifique, c'est une des plus belles définitions de l'utopie, c'est réfléchir aux caractères moraux d'une société qu'on essaye peut-être de transformer, mais qu'on n'est pas forcément, parce qu'on écrit de l'utopie, qu'on ne veut pas forcément transformer.
Oui, sur ce point, Laurence Fontaine.
Oui, en fait, j'aurais envie d'introduire Marivaux et ses trois pièces utopiques en un acte, l'île aux esclaves, la colonie et l'île de la raison. Mm-hmm. En particulier l'île aux esclaves. On se rend compte que Marivaux, et j'ai l'impression que j'ai, a une stratégie qui est « je veux parler à tout le monde, je veux que tout le monde entende le message que j'ai à dire ». Et donc dans l'île aux esclaves, qui a été jouée à la cour, très peu, et qui n'a pas été très goûté, parce qu'en plus, il y avait un petit ballet terminal avec des esclaves qui n'a pas plu aux aristocrates, mais qui a eu un succès absolument phénoménal à la ville où tout le monde réclamait Arlequin. Alors, ce qu'il fait dans cette pièce, d'emblée, il dit aux aristocrates, ne vous en faites pas, tout va s'arranger, il va rien vous arriver, tout va bien se terminer. Et de fait, tout se termine bien. Mais en attendant, il a dit tout ce qu'il pensait. Il a décrit cette société aristocratique, injuste, violente, vaniteuse, il a tout décrit. Il fait la même chose avec la colonie. Avec la colonie, ce sont les femmes qui demandent l'égalité des droits aux hommes. Alors, effectivement, on ne leur donnera pas, parce qu'un petit stratagème fera qu'à la fin, on fait croire aux femmes qu'il y a la guerre et qu'il faut que les hommes partent combattre, et donc elles leur disent « allez-y, allez-y, on va s'occuper du ménage ». Mais entre-temps, il a dit. Et finalement, je pense que cette stratégie de dire, même si la pièce ne va pas à son terme, est aussi une efficacité très grande.
Oui, Michel Poré, vous avez écrit, entre autres, l'article « Famille et éducation » dans ce dictionnaire critique de l'utopie au temps des Lumières. Et on voit bien, effectivement, combien ces textes utopiques autour des Galigènes de Tiphaine de la Roche, publié en 1765 à Amsterdam, par exemple, avec l'idée qu'il faut élever les enfants, enlever les enfants à leur mère, comme imaginé à l'époque à Sparte. Donc, et tout faire pour qu'ils appartiennent à tout enfant appartient à la République, écrit Tiphaine Delaroche. Toutes ces questions, effectivement, sont des questions qui vont être débattues, même si, pendant la Révolution française, même si très rapidement, le régime patriarcal va reprendre le dessus, comme nous l'a expliqué, par exemple, nous l'ont expliqué les travaux d'Anne Verju sur le bon mari, par exemple, Michel Poré.
Oui, effectivement, les textes utopiques sur la famille sont très intéressants, je dirais, d'une radicalisation, en tout cas au XVIIIe siècle, d'une radicalisation de la pensée philosophique, de la pensée éducative, de la pensée politique, avec cette idée que la famille, c'est le creuset en fait fondamental de la société, c'est le creuset fondamental de l'État, et que la famille ne peut plus être une affaire réglée uniquement par les sentiments familiaux. Et que à l'intérieur même de la famille, et c'est un peu, tous les textes convergent au XVIIIe siècle sur l'éducation et la famille, c'est à l'intérieur de la famille même que l'individu doit être saisi immédiatement, éduqué, pour en faire un parfait citoyen.
Chaque femme sera l'épouse de tous les citoyens, chaque citoyen sera l'époux de toutes les femmes, écrit ainsi Tiphaine Delaroche dans son travail sur la République incestueuse et endogame des Galigènes. Continuez,
Michel Poré. Alors ça, c'est un texte évidemment extrêmement radical.
Ça, c'est le plus radical de tous, oui.
C'est le plus radical de tous. Hein, finalement, la société idéale, c'est une société qui est basée sur une forme, on peut le dire, une sorte d'énorme inceste, dans lequel, en fait, si on comprend bien le texte, il n'y a plus que l'ordre naturel qui importe pour construire la nature, pour construire la famille, et plus aucun ordre moral ou affectif. Mais là, on est dans un texte, je crois, extrêmement radical, mais qui montre qu'il y a une forme de naturalisme qui travaille dans beaucoup de ces textes de la radicalité utopique. En fait, ils ont tous un peu le même problème, les textes, disons, après 1750. C'est assez paradoxal, puisqu'après 1750, c'est à la fois l'émergence d'une sensibilité de l'individu extrêmement forte dans la culture des Lumières, et puis d'autre part, la plupart de ces textes utopiques reviennent d'une façon massive sur l'importance, je dirais, de la communauté avant l'individu.
Absolument.
C'est la communauté, c'est anti-rousseauiste d'une certaine manière. C'est dans la communauté que doit se jouer la norme qui permet de construire une société qui veut être, et on l'a pas encore dit aujourd'hui, et il faut quand même rappeler ça, les sociétés utopiques que ce dictionnaire met en évidence, telles qu'on l'a un peu rassemblé, c'est des sociétés insupportables. C'est les sociétés de l'égalité obligatoire, c'est les sociétés du bonheur obligatoire, c'est les sociétés dans lesquelles la transparence parfaite à chaque instant fait que la vie privée, ou la vie intime, ou la vie individuelle, n'est plus une valeur acceptable. Et d'ailleurs, cette déclinaison du côté extrêmement sombre de l'utopie ou extrêmement autoritaire de l'utopie, eh bien, c'est ce qui va donner le nouveau genre. Et ça pourrait être évidemment une autre entrée, mais qui prendrait beaucoup de temps, c'est-à-dire le genre de la dystopie qui va être construite progressivement sur les vestiges même de l'utopie lorsque cet imaginaire s'est épuisé à la fois par la géographie et à la fois par l'idée qu'on peut construire un bonheur dans le présentisme absolu au XVIIIe siècle. D'une certaine manière, il y a une potentialité, je dirais, d'une réflexion sur un bonheur presque inatteignable.
Oui. François Rosset, par exemple, c'est vrai que dans cette société très autoritaire, Louis-Sébastien Mercier, dans son essai sur l'an 2440, qui est cité par quasiment tous les auteurs de ce dictionnaire critique de l'utopie, eh bien, Louis-Sébastien Mercier imagine que, effectivement, il y aurait trop de livres dans la société du futur, trop de choses à lire, et donc il faudrait par exemple réduire au maximum toutes les connaissances dans un petit livre in 12, parce que c'est ainsi qu'on pourrait faire profiter chacun des connaissances accumulées par l'histoire de l'humanité, on brûlerait le reste.
Oui, alors c'est
un peu radical,
l'un des très nombreux auteurs, non, mais il est l'un des très nombreux auteurs à proposer cela. Encore, il est beaucoup moins radical que certains autres qui proposent de ne réduire plus qu'à un seul livre. Lui, il fait quand même un choix, il en garde quelques centaines. Mais c'est vrai que cette question de la prolifération et prolifération incontrôlable la circulation des connaissances et des écrits, fait que les intellectuels s'inquiètent très sérieusement au XVIIIe siècle, alors que dans les périodes précédentes, leurs congénères étaient en mesure de maîtriser à peu près la production, du moins en tout cas la production la plus significative dans la plupart des sciences. Ça n'est plus le cas au XVIIIe siècle. Et donc, il y a la nécessité de faire des choix. Et en général, cela s'associe à tout cet aspect dysphorique de l'utopie.
Qu'est-ce que vous voulez dire par dysphorique?
Vient d'évoquer. Dysphorique dans le sens où plus on construit un monde parfait, plus on établit les éléments qui vont le détruire. Et en fait, c'est quelque chose de très 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 ancien. On sait que, par exemple, dans cette fameuse lettre qui était d'ailleurs un canular absolu du XIIe siècle, qui décrit le royaume du prêtre Jean, qui est une des sources originaires de l'utopie, le royaume du prêtre Jean, est décrit évidemment comme un pays absolument délicieux sur toutes sortes de plans, mais en même temps, il y a d'une part le palais du souverain qui se distingue très nettement par sa magnificence, donc le souverain est très fort, les lois sont très coercitives, on continue de faire la guerre, et puis, je répète, on est au XIIe siècle, il y a un système de miroir qui permet de voir exactement tout ce qui se passe partout dans le royaume du prêtre Jean. Et donc, si vous voulez, cette face sombre du monde idéal, elle est impliquée dès les origines dans les textes qui font état ou qui racontent, qui donnent une consistance verbale et textuelle au rêve du monde parfait. Et au fond, cette question de la limitation des connaissances me semble être tout à fait liée à ça.
Bien sûr. Laurence Fontaine, un dernier mot.
Ben ils ont raison dans le sens que énormément de ces utopies sont minées de l'intérieur. Parce que le problème, c'est à la fois qu'il faut quand même les passions humaines. Et l'abbé Prévost fait résumer très bien ça par un vieillard qui raconte et il dit on a réussi à couper les trois mauvaises passions. Sur les trois mauvaises passions humaines, on en a coupé deux. L'égalité est établie. Parce que comme ça, on s'est débarrassé de l'ambition. L'inutilité des richesses nous a guéri de l'avarice. Mais il nous reste à trouver un remède à la passion amoureuse.
Et au désir.
Et au désir.
Effectivement, l'abbé Prévost était un spécialiste. Merci à tous les trois. Merci à vous, Michel Poré et François Rosset. Et merci à nos confrères de la Radio Suisse Romande de vous avoir accueillis dans leur studio. Donc, le dictionnaire critique de l'utopie au temps des Lumières, sous votre direction, ainsi que celle de Bronislav Bashko, est publié chez Georg Édition grâce à la Fondation Balzan. Merci à vous, Laurence Fontaine, d'être venue nous rejoindre dans notre studio à Paris. Demain, nous vous parlerons d'un réformateur social, en l'occurrence de l'abbé Grégoire, puisque nous parlerons à la fois de la question de l'esclavage en deuxième partie de cette émission avec Olivier Grenouillot. Et en première partie, nous aurons le plaisir et le bonheur de recevoir Pierre Birnbaum qui nous parlera du concours de Metz autour de l'émancipation des Juifs juste avant la Révolution française. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marseille et par Francesca Fossati. Clément Daté nous a accompagnés à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation.